La physique, Père Philippe, 5 janvier 1983, Rimont.
J'espère que vous n'avez pas tout oublié. Ça fait quand même un petit moment. Alors, nous étions, je reprends, dans cette recherche de philosophie première, il faut toujours voir l'orientation. Dans cette recherche de philosophie première, c'est-à-dire cette philosophie dans ce qu'elle a de fondamental et d'ultime, savoir ce que c'est que l'homme du point de vue de son exister, du point de vue de son être. Et je dis bien l'homme, parce que c'est toujours l'homme que nous regardons en premier lieu. Et c'est important de comprendre que c'est l'homme que nous regardons en premier lieu. Et nous interrogeons qu'est-ce que c'est que l'homme du point de vue de son être. Et c'est là où nous découvrons ce que c'est que l'ousia, c'est-à-dire ce que c'est que la substance, ce que nous avons essayé de faire. Ça ne veut pas dire que c'est déjà fait, hein. Mais on recherche tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette source de toutes les déterminations qui sont en nous? Autrement dit, si vous voulez, une autre manière de comprendre, notre âme, que nous avons déjà saisie au point de vue philosophique, en philosophie du vivant, notre âme spirituelle, notre âme qui informe notre corps, notre âme qui est source de vie, et source aussi de notre être. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons cela? Que notre âme est source de notre vie et source de notre être. C'est intéressant de se poser la question de cette manière, si vous voulez. C'est plus facile, d'une certaine manière. Parce que c'est plus facile de poser notre âme que de poser notre substance. On est plus facile, hein. On est plus habitué, voilà. Poser notre âme, oui, c'est bien évident que nous avons une âme. Qu'est-ce que c'est que votre âme? Vous l'avez jamais rencontrée. Parce que si vous aviez rencontré une âme séparée, c'est en disant, allez, viens habiter mon corps. Hein. Vous savez, comme la petite colombe qui s'en va du pigeonnier, puis qui vient rejoindre dans le pigeonnier et habiter le pigeonnier. C'est pas ça, notre âme. C'est bien l'image de la petite colombe. Au Moyen-Âge, c'était toujours la petite colombe, hein, quand on voyait une âme séparée. Vous savez, l'âme de Saint-Benoît qui quitte alors Sainte-Scolastique. C'est l'âme de Sainte-Scolastique et Saint-Benoît, ça importe peu. C'était l'âme qui s'en allait, qui quittait le corps. Alors nous avons tous une âme, nous le savons. Ce qui est très difficile, c'est de comprendre que notre âme, qui est source de notre vie, est source de notre être. Alors là, on touche que c'est que l'ousia. On touche ce que c'est que la substance. La substance, c'est principe radical de notre être, de l'unité de notre être. Vous voyez, c'est ça qui est important. Parce que quand on prend l'âme et le corps, on risque de rester dans une dualité. C'est très bien, projection psychologique. C'est le psychologisme qui fait naître la dualité, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça fait comprendre le point de vue de notre âme spirituelle et le point de vue de notre corps. Nous avons des opérations qui sont d'ordre spirituel et puis nos opérations qui sont d'ordre végétatif. N'est-ce pas? Dormir, manger, c'est de l'ordre végétatif. Et notre pensée, aimer. Alors ça, c'est d'ordre spirituel. Alors nous opposons les deux. Alors qu'il y a une unité fondamentale dans l'ordre de l'être. Qui est notre ousia, notre substance. Quand nous arrivons à distinguer dans ce qui existe, ce qui est dans l'homme, la substance, comme principe propre et radical de notre être, immédiatement nous distinguons toutes les autres déterminations. Et parmi les autres déterminations, nous avons vu que la première, d'une certaine manière, pour l'homme sûrement, c'est la relation. Au fond, l'homme, si je réfléchis bien, l'homme dans son existence a toujours deux pôles. Le pôle de son autonomie et le pôle de ses relations. Vous êtes à la fois des êtres qui ont une autonomie du moins j'espère, pas toujours très grande, n'est-ce pas, mais quand même, une autonomie, et puis des êtres relatifs aux autres, des êtres en relation vis-à-vis des autres. Mais voyez la différence, c'est que tout de suite, votre autonomie, elle est singulière et elle est une. Vous n'avez pas diverses autonomies, tandis que vous avez diverses relations. Tout de suite, le problème de l'unité et de la multiplicité. Votre autonomie fondamentale, qui fait que vous avez du plomb dans votre âme, ça tient, chose qui tient. Et puis, les relations, vous êtes relatifs aux autres. Il y a des êtres qui sont purement relatifs, qui n'ont aucune autonomie, sont purement relatifs, ils n'ont pas encore découvert ce que c'était que leur autonomie. Et vous voyez, notre monde d'aujourd'hui nous conduit de plus en plus vers cela. Des êtres qui sont entièrement relatifs à la télévision, ça existe. Je vis de la télévision. Ah, belle vie. Je vis de la télévision, je suis entièrement relatif. Quand il n'y a pas de télévision, une panne d'électricité, ah c'est effrayant, le monde s'arrête. On est entièrement relatif aux événements du monde, à ses images. Non, on est tout entier relatif. Aucune autonomie, aucune profondeur. Il faut découvrir progressivement la profondeur qui est en nous, qui dépasse toutes nos relations. Mais c'est très vrai que c'est la première division la plus simple que nous découvrons en nous, notre autonomie et nos relations. Et nos relations qui sont plus ou moins profondes du reste, parce que parmi les relations, il y a des distractions. Et puis il y a de vraies relations. Il y a des relations où il y a véritablement un lien avec les autres. Et puis il y a des relations qui sont tout à fait secondaires. Elles sont successives. Elles passent. C'est la première distinction que nous devons faire au point de vue métaphysique. Donc, découvrir notre substance par où nous sommes nous-mêmes, source cachée de toutes les déterminations. Source d'autonomie. Il y a une autonomie en nous. Si on pouvait jauger ça, vous voyez, ce serait merveilleux. Alors on ne pourrait faire profession simple que quand la source d'autonomie dépasse un certain niveau. Parce que c'est vrai, c'est au fond. Prendre en main sa vie et l'orienter dans un sens exige une très grande autonomie. Parce que c'est ça ce qu'on fait. Prendre sa vie en main et l'orienter dans un sens. Tandis qu'autrement, c'est des distractions. Et puis, en mettant autant que vous voulez, la télévision. Alors, il n'y a pas nécessairement un appareil de télévision, parce que si on a suffisamment d'imagination, on peut porter en soi-même un petit appareil de télévision. Alors, on porte en soi-même le petit appareil de télévision, ce qui est encore plus difficile, parce qu'il n'est pas objectif, celui-là. Il est d'une subjectivité remarquable. Alors, vous avez toutes les distractions possibles. Et vous êtes un être totalement relatif. Et vous ne vous y retrouvez jamais. Vous ne savez pas où vous êtes, le matin, après, en fonction des diverses opérations qu'on fait. On est totalement relatif. Et alors, voyez ce que ça peut être, quand on est 90, dans une communauté, 90 relations. Et vous ne vous retrouvez jamais. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui aiment bien d'être dans une petite communauté, parce qu'il n'y a au moins que 4 relations. Alors, c'est plus facile, vous voyez. C'est-à-dire 90, vous voyez, 90 relations, c'est ça. 90 sur la dit, alors je ne retrouve plus du tout mon autonomie. C'est vrai ça, c'est vrai, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Nous sommes des êtres relatifs et nous sommes des êtres autonomes. Nous avons en nous une capacité d'autonomie qui se creuse. On acquiert une autonomie. Ça s'acquiert, il ne faut pas dire du tout. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert parce qu'il y a quelque chose qui existe, Alors on la dévoile cette autonomie, on la dévoile de plus en plus. Et vous voyez, ça c'est, j'allais dire, c'est l'intériorisation de notre vie. On s'intériorise. Et plus on s'intériorise, plus on devient capable d'autonomie. Tandis que le point de vue de la relation ne nous donne pas l'autonomie. C'est pour ça que c'est quelque chose de second. La relation est second et la source d'autonomie est première. Il y a un ordre très important de comprendre cela. Vous ne pouvez pas acquérir votre autonomie par les relations. C'est faux. Vous n'acquérez jamais votre autonomie par les relations. Et c'est là, on voit que la psychologie est limitée. Parce que la psychologie, elle regarde le point de vue des relations. Alors ça, c'est très très bien. Et elle pourra donner la qualité de ses relations. Mais on ne pourra jamais acquérir l'autonomie par la relation. Jamais. On dira, oh, cette relation est tellement unique. Oui, elle est unique, mais elle reste une relation. Et donc, ça vous met ad, ça vous fait tourner vers. Votre autonomie, elle s'acquiert par cette espèce de possibilité qu'il y a de creuser en vous quelque chose de plus en plus profond. Et vous découvrez qu'il y a en vous cette source d'autonomie. Vous voyez, il y a notre relation vis-à-vis de l'être premier que nous appelons Dieu. Il n'y a que cette relation avec Dieu qui nous creuse en nous l'autonomie. C'est très curieux. Alors ça, ce serait aussi très intéressant à regarder. Seule notre relation à l'égard de Dieu. Seule notre relation à l'égard de Dieu creuse en nous une autonomie. Au fond, cette relation d'adoration, parce que c'est une relation d'adoration, cette relation d'adoration à l'égard de Dieu creuse en nous une autonomie. Et alors, l'autonomie et l'aspect relatif, parce que Dieu ne fait pas nombre, l'autonomie et l'aspect relatif peuvent très bien aller ensemble. Parce que l'adoration nous intériorise. Tandis que nous atteignons les personnes, toutes les personnes qui sont autour de nous, nos amis, nous les atteignons toujours, ça ne peut pas être autrement, on ne peut pas les atteindre directement. On ne les atteint pas par l'intérieur, on les atteint toujours par le point de vue sensible. Et donc ça ne peut pas nous intérioriser avec la même intensité. Ça nous intériorise, c'est bien évident, ça nous aide. Mais ce n'est pas premier. Il y a un ordre à maintenir entre les deux. Vous voyez, tout de suite, au plan métaphysique, c'est la première chose que nous saisissons. C'est impressionnant, du reste. Première chose qu'on saisit, qui n'est pas commode, hein, à saisir l'ousia, notre substance, source d'autonomie qui est en nous, et puis l'aspect relatif. Voir que la relation de l'aspect relatif est dans la multiplicité. La relation n'est jamais une. Là aussi, ça montre comment la relation ne peut jamais acquérir l'autonomie. Alors que la substance est indivisible. Principe d'indivisibilité. Donc, principe d'autonomie qui creuse en nous de plus en plus quelque chose qui fait que nous sommes uniques. L'unité de notre vie, elle vient de cette source. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est simplement pour vous montrer. Nous allons voir maintenant quelque chose de parallèle à la relation de la qualité. Le domaine des qualités. Alors ça, c'est aussi un domaine de la multiplicité, vous allez voir. Nous avions vu, si vous vous rappelez, que la relation comme telle est un être très très débile. C'est un être qui ne peut pas se tenir par lui-même. Et donc, la relation implique toujours un fondement. Les meilleures relations, c'est un fondement qualitatif. Les meilleures relations, c'est la relation d'amitié. C'est la relation de personne à personne. Ça, c'est les relations d'une qualité unique. Parce que ça met deux personnes entre elles. Mais voyez, dans la relation d'amitié, on voit très bien l'autonomie plus ou moins profonde. Mais dans les relations d'amitié, elles ne sont vraies que s'il y a une autonomie des deux côtés. S'il n'y a pas d'autonomie des deux côtés, qu'est-ce qu'on fera? On se servira de son ami comme d'un sycomore. N'est-ce pas? Alors on s'appuiera toujours dessus, et au bout d'un certain temps, l'ami dira, mais tu es un poids, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de mon autonomie. Et c'est vrai, on a besoin de son autonomie. Chacun, pour acquérir une véritable amitié, il faut une autonomie. Et plus l'autonomie est forte, plus l'amitié pourrait être forte. L'amitié, c'est donc la relation la plus grande, puisque c'est au niveau des personnes. C'est la personne qui fait deux amis. Eh bien, l'amitié va se fonder sur une qualité. Quelle est la qualité qui fonde l'amitié? C'est le don du choix amical. On se choisit. C'est cette fameuse chose qu'on appelle la cognomia, très difficile à traduire, hein, c'est-à-dire la mise en commun. La mise en commun. C'est quelque chose qualitatif, ça. Parce qu'au fond, on n'allait pas dire « c'est mon ami parce qu'il pèse le même poids que moi ». La mise en commun, c'est la quantité. Tous les deux, nous pesons le même poids. On n'est pas mis à cause de ça. Voyez. Donc, ce n'est pas du tout la quantité qui fonde l'amitié. On pourrait dire, d'une certaine manière, c'est mon ami parce que j'ai vécu très longtemps avec lui. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que quelquefois, c'est source d'inimitié, d'agacement. J'ai vécu tellement avec lui que j'en ai par-dessus la tête. Voyez. Alors, la mise en commun, là, ce n'est pas très qualitatif. C'est une mise en commun qui est tout à fait quantitative. Et alors à ce moment-là, c'est source d'opposition et source d'inimitié. Alors qu'au contraire, quand c'est une mise en commun qualitative, alors à ce moment-là, c'est source d'amitié. Alors, on va essayer de comprendre comment la qualité peut être fondement de la relation. Et pour ça, il faut regarder qu'est-ce que c'est que la qualité. Ça, au point de vue philosophique, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la qualité ? Alors d'abord, au point de vue, si vous voulez, topique, quel est le premier philosophe de la qualité? C'est intéressant de voir les philosophes de la qualité. Il est bien évident que dans l'ordre de la qualité, ce sont les philosophes qui ont le plus le sens de l'art qui sont les philosophes de la qualité. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que Platon est un philosophe de la qualité d'une manière étonnante. Et que peut-être que quand il parle de l'être, en réalité il parle de la qualité. Je mettrai à peu près en parallèle Platon et Heidegger. Je crois que ce sont les deux grandes philosophies de la qualité. Et quand on lit Heidegger, on a toujours l'impression que Heidegger, c'est le philosophe de la qualité et qu'il n'a jamais été au-delà. On verra ça. C'est intéressant, du reste. C'est intéressant parce que c'est grand, philosophe de la qualité. Dans un monde de la quantité, on comprend très bien que le philosophe comprend que la première chose à faire, c'est de sauver la qualité. Et là, je suis tout à fait d'accord. Dans un monde comme le nôtre, la première chose à faire, c'est de sauver la qualité. Et on comprend que le rôle imminent du philosophe dans le monde d'aujourd'hui, c'est de sauver la qualité. Vous voyez, parce qu'on risque toujours, dans le monde d'aujourd'hui, de vouloir faire une philosophie à la suite de la science. C'est la grande tentation, ça. Ah, il faut passer par la science pour être un philosophe. Pas du tout, c'est de la bêtise de dire ça. C'est n'avoir rien compris à la philosophie. Il ne faut pas passer par la science. Ça, c'est du Platon. Platon disait qu'il fallait passer par le domaine de la quantité, par le domaine des mathématiques pour être philosophe. Mais non. Que la science soit le milieu dans lequel on est, c'est très vrai, le milieu dans lequel on est, c'est un milieu scientifique. Alors, que de fait, il faille parler un langage scientifique pour atteindre les modernes d'aujourd'hui, très bien, ça c'est apologétique. Mais ne confondons pas l'apologétique et la philosophie. Comme il ne faut pas confondre l'apologétique et la théologie. C'est très vrai que le langage de notre monde d'aujourd'hui, le langage de notre monde d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que les charismatiques sont si impressionnés par ça, parce qu'eux veulent la communication et veulent parler. Et alors, ils ont des commissions de scientifiques, je le sais bien, puisque je m'occupe d'eux, ils ont des commissions scientifiques pour savoir le langage des scientifiques. Et alors, il faut traduire le langage philosophique en langage scientifique. Ça fait une bouillabaisse de premier ordre, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien. Alors il faut entrer dans cette bouillabaisse, je crois qu'il faut y entrer, il faut l'accepter. C'est le dégel. Donc il faut accepter avant qu'il y ait du soleil. Il faut accepter ce dégel, mais alors il faut toujours préciser. Ce terme n'est pas, il est employé de cette manière-là chez le savant, nous l'employons d'une autre manière, très très bien. Donc on passe par là, on passe par le tunnel, il faut accepter une phase apologétique. Mais il faut savoir que c'est une phase apologétique. C'est très curieux, dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il faut le reconnaître, dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement impressionné par la science. Et je dis le monde d'aujourd'hui, ça date, hein. Faut pas croire que c'est original de notre monde d'aujourd'hui, c'est depuis Descartes. Descartes comprenait qu'il fallait reprendre la métaphysique d'Aristote à partir des mathématiques. Donc retourner à Platon. C'est pour ça qu'il tourne le dos à Aristote. C'est Platon. Kant. Il faut reprendre la physique moderne. Et au fond, quand vous regardez la phénoménologie, c'est la même chose. Husserl, c'est encore la science. Il faut découvrir le prototype de la science, le modèle scientifique. Alors à partir de là, vous pourrez commencer à penser. Heureusement que la pensée a commencé avant la science. Et alors est-ce que le propre du philosophe n'est-il pas de redécouvrir ce qui est antérieur à la science? Notre monde d'aujourd'hui, notre monde occidental, a commencé à penser avant d'être un monde scientifique. Il a été même un monde d'artistes. Les artistes sont nés avant les savants, grâce à Dieu. Les artistes sont nés avant les savants. Et alors, parce que les artistes sont nés avant les savants, ils ont toujours un droit d'aînesse qu'il faut respecter. Et c'est pour ça, si vous êtes très attentif à la science, soyez très attentif à l'art. Alors à ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous vous servez du langage des artistes ou vous servez du langage des savants pour essayer d'entrer dans un langage philosophique. Mais c'est très vrai que vous devez toujours avoir les deux. Toujours les deux. Et que votre philosophie est au-dessus. Alors, comprenons. Le langage scientifique n'est pas un langage qualitatif. Le langage de l'artiste est un langage qualitatif. C'est très curieux, ça. Et ça, ce serait très intéressant à faire cette petite étude. Très intéressant de faire cette petite étude, parce que ça aiderait beaucoup. Petit topic très simple. On prendrait le dernier livre scientifique, et puis le dernier livre des artistes. Et vous remandriez la sensibilité qu'il y a derrière. Pour essayer de comprendre que le monde des artistes, c'est un monde de la qualité. Et le monde des scientifiques est un monde de la quantité. Au sens très très fort. C'est un monde de la mensuration. C'est important de saisir ça. C'est très important parce que c'est saisir la sensibilité. Ce qui montre que ce n'est pas la science qui nous introduit dans la philosophie. Tandis que l'art peut nous introduire plus vite. Mais si on est artiste et si on est scientifique, prenez la corde de l'art plus que la corde de la science. Or, chacun d'entre nous, nous avons un petit coin d'artiste et un petit coin de scientifique. C'est rare que l'artiste a mangé complètement le scientifique, et c'est encore beaucoup plus rare que le scientifique ait mangé tout l'artiste. C'est très rare. Ordinairement, il y a les deux. Alors, on s'est spécialisé d'un côté, mais on a les deux. Et c'est bon de sentir les deux. Et je crois que c'est très important de sentir les deux. Et sentir que le monde d'aujourd'hui est un monde avant tout scientifique. Mais les savants nous introduisent moins vite dans la philosophie que les artistes. Je crois. Je crois ça très fort. Parce que le domaine de la science et le domaine quantitatif des mathématiques, ça nous introduit moins vite dans la philosophie que le domaine de l'art. Mais il faut reconnaître aussi que le domaine de l'art est tellement inscrit dans l'homme que c'est très difficile d'être méta-artiste. Comme c'est quelquefois très difficile quand on est très très matheux d'être méta-mathématique. C'est-à-dire d'aller au-delà des mathématiques et au-delà de l'art. Vous savez la petite remarque d'Aristote qui est si jolie à propos du poète et de l'historien. Et quand il dit « le poète est plus proche du philosophe que l'historien », à première vue, on croirait l'inverse. Dites ça à un hégélien. Bon, on dira. Parce que c'est vrai, un hégélien, il a le sens de l'histoire, il a le sens de l'histoire, la philosophie de l'histoire, aujourd'hui, ça devient sacré, sacro-saint. Alors vous dites, l'histoire est plus loin de la philosophie que la poésie. Et c'est vrai. La poésie est plus proche. Pourquoi ? Parce que le poète a le sens du fait singulier. Alors il a plus le sens de la réalité philosophique. L'homme est plus poète que historique. Si votre idéal est d'être historique, vous serez vite sous la tombe. Tandis qu'au contraire, si votre idéal est d'être poète, alors à ce moment-là, vous avez quand même quelque chose de qualitatif qui est en vous. Il y a le point de vue qualitatif qui demeure. C'est important, c'est une introduction à la philosophie de la qualité que je vous fais là, pour vous rendre sensible à cela. C'est ça que je voudrais. Il faut être sensible à la qualité. C'est très très important d'être sensible à la qualité dans un monde comme le nôtre. Nous n'entrons en philosophie que dans la mesure où on est sensible à la qualité. C'est la porte royale pour entrer en philosophie. C'est le domaine de la qualité. Alors vous allez me dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait au début ? Oui, je vous l'ai dit, mais je le redis maintenant. Parce que vous avez un petit peu plus le sens, alors je vous le redis, c'est la porte royale de la philosophie, c'est la qualité. Bon, alors, les deux grands philosophes de la qualité, Platon et Heidegger. Alors, si parmi vous, il y en a qui aiment de faire des grands parallélismes historiques, ce serait très beau de faire ce parallélisme, ce serait merveilleux, de Platon à Heidegger, de Heidegger à Platon. Et je vous affirme qu'on trouverait des tas de choses très intéressantes pour découvrir comment nous sommes en présence des deux grands philosophes de la qualité, parce que ce sont les deux grands philosophes poètes. C'est les deux grands philosophes poètes. Les deux grands philosophes des mythes. Heidegger, vous savez bien, veut que le logos ne se sépare jamais du mythe. Et Platon sait très bien que le mythe ne peut jamais être totalement rejeté. Le mythos et le logos. Alors c'est très intéressant de voir ça, et de voir comment chez Platon comme chez Heidegger, nous retrouvons une philosophie du mythe et une philosophie du logos. Liées, très étroitement liées. Vous avez ensuite comme grand philosophe de la qualité, Aristote. Mais d'une manière totalement différente. Ce serait encore une manière intéressante de voir l'aristotélisme, de voir comment Platon et Aristote peuvent être des philosophes de la qualité, mais d'une manière toute différente. Toute différente. Parce que Platon est philosophe de la qualité en ce sens qu'il ramène l'être à la qualité. Aristote est le philosophe de la qualité en ce sens qu'il distingue la qualité de l'être. Vous voyez les deux, et c'est très curieux ça. C'est très curieux de voir combien Aristote a le sens de la qualité. Alors quels sont les grands lieux où nous découvrons le sens de la qualité chez Aristote ? Chez Platon, c'est toute sa philosophie. Toute la philosophie de Platon est une philosophie de la qualité. Vous voyez, quand Platon parle de l'amour, par exemple, eh bien, c'est très net. Hein. C'est encore la qualité. C'est pas tellement l'amour. C'est plus l'amour qui qualifie un être, qui le rend démoniaque. Qu'est-ce que c'est ça, Platon ? Le daimon, hein ? N'ayez pas une réminiscence catholique, n'est-ce pas ? Mais ayez une réminiscence religieuse à la manière de Platon. Alors le daimon de Platon, c'est l'être médiateur entre les hommes et Dieu. C'est ça le daimon. Et alors, l'amour nous rend démoniaque. En ce sens que l'amour nous fait sortir de nous et fait de nous des êtres qui sont capables d'être sensibles au Dieu. Vous êtes sensibilisés au divin par l'amour. Vous voyez que c'est l'aspect qualitatif de l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est l'amour qui vous rend capable d'eux. C'est l'amour qui vous rend capable d'être prophète, de recevoir les révélations des dieux, de recevoir les secrets des dieux. Donc l'amour est au service de la connaissance. C'est bien la qualité. C'est très curieux, ça. Et c'est intéressant, parce qu'on le voit tout de suite. Alors, chez Heidegger, on découvrirait exactement la même chose. Donc, toute la philosophie de Platon est qualitative. Je ne crois pas que Platon ait dépassé la qualité. La qualité. Parce que la qualité, comme nous le verrons, c'est la forme. Et je ne crois pas que Heidegger ait dépassé la qualité. Il est resté une philosophie de la qualité. Une grande philosophie de la qualité. Aristote est un philosophe qui dépasse la qualité. Alors à ce point de vue-là, on va dire, ce n'est plus un philosophe de la qualité. Oui, c'est encore un philosophe de la qualité parce qu'Aristote considère que la qualité est le seul moyen par lequel j'entre en philosophie. Aristote est le philosophe de la qualité en ce sens qu'il essaie de comprendre ce qu'est la qualité. Alors, vous avez dans les catégories. Dans les catégories d'Aristote, vous avez un lieu très important pour comprendre ce que c'est que la qualité. Vous savez qu'Aristote définit la qualité dans les catégories. La première catégorie, du moins la première espèce de qualité, c'est l'exis. C'est la diathesis. Lexis et la diathesis. Lexis, c'est quoi? Lexis, on a traduit habitus. La diathesis, on a traduit disposition. Alors, l'habitus, c'est quoi? C'est un état. Un état permanent. La qualité, c'est bien un état permanent. C'est quelque chose qui nous met, qui nous situe de telle manière dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'opération. Alors, on a cette manière particulière d'être. On est démoniaque. C'est bien un exis d'être démoniaque. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est capable de capter telle ou telle chose. Vous savez bien, Socrate considérait qu'il avait reçu des dieux un don très particulier pour découvrir qui était amoureux. C'est bien une qualité particulière. Pour découvrir l'amoureux, il faut être amoureux. Alors à ce moment-là, on découvre ceux qui sont amoureux. C'est l'exis. C'est une qualité, c'est pas l'amour. C'est une qualité qui me rend capable de découvrir chez les autres quelque chose dans lequel ils se trouvent. Donc c'est une qualité particulière, exis, une capacité qui me rend telle, une capacité qui me donne justement cette possibilité de découvrir et de capter chez les autres telle ou telle qualité, l'exis. Alors Aristote montre que cet exis peut être plus ou moins profond et plus ou moins acquis. L'exis, c'est-à-dire cet état, peut être un état acquis, comme il peut être aussi une disposition naturelle. Il y a des êtres qui sont plus ou moins disposés naturellement, qui sont plus ou moins qualitatifs. C'est vrai, il y a des êtres plus ou moins qualitatifs, alors qui ont des dispositions à être plus ou moins spirituelles. Alors, c'est les dispositions, ça, c'est les deux. Alors, Aristote, ensuite, distingue l'espèce, la puissance, les qualités passives, puis la figura. Donc, le premier lieu sur lequel il faut regarder la qualité chez Aristote, c'est les catégories. Je vous ai déjà dit. C'est un livre qu'il faut lire assez vite, les catégories d'Aristote. On ne perd pas son temps à lire les catégories d'Aristote. Mais il faut y revenir souvent. Hein. Ce n'est pas la première lecture qui nous fait comprendre les catégories d'Aristote. Mais il faut lire les catégories d'Aristote assez vite. Et les lire attentivement, hein, comprendre ce que c'est que la qualité chez Aristote. Bon, et puis alors ensuite, vous regardez la qualité dans le livre Delta des métaphysiques. Métaphysique, livre Delta. Parce que là, il y a un petit dictionnaire philosophique qui est très intéressant, qu'il faut lire aussi assez vite. Le livre Delta des métaphysiques, c'est le petit dictionnaire d'Aristote. Alors, le petit dictionnaire d'Aristote, c'est très intelligent, c'est très fort. C'est le Lalande d'Aristote, vous voyez ? Le Lalande d'Aristote. Beaucoup plus intelligent que Lalande, on a fait des progrès, n'est-ce pas ? Alors, c'est un dictionnaire extraordinairement intelligent sur les différentes significations des mots et des termes philosophiques. Et là, il y a le terme qualité, je ne sais plus quel chapitre, ça n'a pas d'importance. 14, je crois. Enfin, c'est le chapitre sur les qualités. Alors on lit ça, et on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est intéressant. On voit qu'il y a un ordre différent dans les catégories, un ordre différent en métaphysique. Alors ça vous fait poser des questions. Toujours intéressant. Et puis vous voyez qu'Aristote se sert de la qualité en éthique. La vertu est une qualité. Est-ce que la contemplation est une qualité? Est-ce que l'amitié est une qualité? Vous posez la question. Et puis vous voyez qu'Aristote se sert des qualités en philosophie du vivant, avec la puissance, les facultés, les dunamis, les dunamis qui est là, présent. Puis vous voyez qu'Aristote se sert des qualités en physique. Autrement dit, dans toute sa philosophie, vous voyez les différents aspects, des catégories. Vous voyez, si vous regardez les différentes catégories, 2, 3, 4 espèces de qualités. Et vous mettez parallèlement à chacune de ces différentes espèces tel ou tel livre. Lexis, éthique. Diathésis, donc la disposition. Ah, vous pouvez dire ça, la disposition peut être en poétique. Il est très sensible à ça en poétique. Mais en poétique, il est aussi sensible à les habitus. Si je regarde la dunamis, c'est-à-dire la puissance, la capacité de, je peux dire philosophie du vivant. Et ainsi de suite. C'est très curieux de voir que, de fait, chacun des livres d'Aristote de la philosophie va mettre en lumière telle ou telle qualité. Ça, c'est très net. Telle ou telle espèce de qualité. Et par là, je peux dire que toute la philosophie d'Aristote est imprégnée de cette philosophie de la qualité. Et je ne peux pas comprendre la philosophie d'Aristote si je ne vois pas ces diverses qualités présentes. C'est une philosophie de la qualité. Mais ce n'est pas une philosophie qui s'arrête à la qualité, qui dépasse la qualité pour regarder le point de vue de l'être. Ça, c'est net. Avec les stoïciens, nous retombons dans un monde quantitatif. Les stoïciens ne sont pas très qualitatifs. C'est pas très qualitatif, les stoïciens. C'est le monde de l'efficacité. Or, les gens de l'efficacité ne sont pas faits pour la qualité. C'est très curieux, ça. C'est très rare que vous avez, dans la même personne, l'efficacité et la qualité. Ça arrive, hein ? Ça arrive. Ça devrait se faire. Parce qu'une véritable efficacité artistique devrait être qualitative. Mais ordinairement, quand on est pris par l'efficacité, on ne regarde plus que la quantité. C'est un fait. Et le stoïcisme n'est plus très qualitatif. Il devrait l'être, mais il ne l'est pas. Peut-être le seul qui est un peu qualitatif dans le stoïcisme, c'est Épictète. c'est le seul qui a un certain sens de la qualité. Et c'est très vrai, quand vous regardez Descartes, vous ne pouvez pas dire que Descartes, c'est une philosophie de la qualité. C'est le philosophe français, mais il n'est pas très qualitatif. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Descartes, au point de vue de la qualité, c'est pas fameux. C'est pas fameux comme qualité. Quand vous essayez de mettre un Descartes comparativement à Aristote, vous vous apercevez qu'il y a une chute. Une chute assez forte du côté de la qualité. Et c'est vrai que quand vous regardez attentivement les philosophies, vous voyez que, de fait, le seul vrai philosophe de la qualité, j'ai dit Platon, Heidegger, Aristote. Vous avez saint Thomas. Alors, dans saint Thomas, la qualité prend une place énorme. Toute la philosophie, toute la théologie de l'habitus. Alors, ça prend une place énorme. Quand vous regardez dans la somme théologique, l'étude de la vertu, c'est énorme. Hein, et l'étude de l'habitus et de l'exis, c'est énorme. Toute l'étude de la pédagogie et de l'éducation se fait dans la lumière de l'habitus. Donc ça prend une très très grande place. Ce serait intéressant de voir la différence entre saint Thomas et Don Scott du côté de la qualité. Alors, encore plus Occam. Donc, parmi les modernes, Bergson serait un philosophe de la qualité. Ça oui. Bergson est un philosophe de la qualité. D'une manière très remarquable. Il a senti ça. Gabriel Marcel, mais à un point de vue moral, c'est un philosophe de la qualité. Ça, je crois. Mais à un point de vue moral, ça reste beaucoup plus restreint. Et puis Heidegger reprend une très grande force, la philosophie de la qualité. Et je crois que c'est en ce sens-là qu'on pourrait dire que Heidegger nous oblige de revenir à une philosophie de la qualité au sens très fort, comme Platon exigeait Aristote d'être très attentif à l'égard de la qualité. Vous voyez, je crois que Heidegger joue, par rapport à notre pensée moderne, le rôle de Platon par rapport à la pensée d'Aristote. Heidegger exige de nous un réalisme d'autant plus grand qu'il est puissant. Alors nous devons redécouvrir une philosophie de la qualité. Bon, ça c'est pour la topique. Essayons maintenant de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Première observation. Et ceci dans la ligne de Bergson, dans la ligne d'Aristote. La qualité est ce qui se manifeste à moi en premier lieu. La qualité, c'est ce qui se dévoile en premier lieu. C'est la manifestation de l'être. C'est le dévoilement de l'être. Alors là, ça va très bien dire ça sur la qualité. Ça ne va pas du tout sur l'être. Vous voyez, c'est toujours un tout petit peu à côté sur l'être. Dire que l'être se manifeste, se dévoile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'être est qualitatif. Un être qualitatif se manifeste. Il se dévoile. Ça, c'est bien évident. Quelle est la qualité la plus visible de notre monde physique? C'est la lumière. Mais la lumière, le propre de la lumière, c'est de se manifester. Le propre de la lumière, c'est de dévoiler. Ça, c'est bien évident. Or, c'est la lumière qui est la qualité la plus visible de notre monde physique. Donc, le propre de la qualité, c'est de se manifester. La qualité a ceci de remarquable, c'est qu'elle est connue immédiatement par elle-même. Elle se manifeste, elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour se manifester. La qualité est connue directement, immédiatement. Un être qualitatif, on le ressent tout de suite. Un être quantitatif, Hein, il faut beaucoup plus de temps pour le dévoiler. Très curieux, ça. La qualité est quelque chose qui se manifeste. Alors, nous continuerons ça. Première qualité de la qualité, c'est la manifestation et le dévoilement. Vous voyez ? Et je dis ça exprès à cause de Heidegger, vous comprenez bien.